Je m'appelle Aïm Patrick, mon grand-père faisait du charbon de bois dans les montagnes avec mon père, mais je n'ai jamais trop vu le fonctionnement. Je sais qu'il y avait des charbonnières en bois, montées avec du bois, ranger le bois d'une façon enchevêtrée, là, avec un carré au milieu pour faire une cheminée, et il mettait le feu à la charbonnière, et il a surveillé pour pas qu'elle brûle trop vite, pour pas que le bois brûle tout. Donc, mais par moment, il devait ralentir par le trou d'aération d'en bas, il devait ralentir le feu. Quand c'était pas consommé en plein, il rensevelissait la charbonnière, le tas de bois par la terre pour étouffer le feu. Et après, il essayait de refroidir et récupérer le charbon.
Ah, c'était pas si facile que ça, hein?
Et après,
il faut surveiller, non?
Et oui, il fallait surveiller. Il faut surveiller.
Alors, vous y étiez avec votre père toute la nuit?
Alors, ça c'était mon grand-père. Ça c'était les charbonnières construites en bois. Après, ça a évolué un peu. Ils ont fait certainement des charbonnières avec du fer. Un gros four de 3 mètres de diamètre en fer. Il y avait le bas et le milieu, le couvercle. Et donc là, ça je l'ai vu, là, sous la maison. Là. Ils remplissaient ces gros fours de bois, mais de la même façon que la charbonnière, là, comme en bois. Et puis ils mettaient le feu, et puis ils surveillaient aussi pour pas que ça brûle trop vite, mais tu n'étais pas obligé de rester en permanence, je pense, devant le tas de bois. Tu pouvais partir et revenir que de temps en temps.
Ça demandait moins de surveillance.
Voilà, puis à la fin, c'est sûr qu'à la fin, le dernier jour, les dernières, je ne sais pas combien ça a duré 8 jours ou 4 jours, je ne sais pas. Ou 4 ou 5 jours, je pense. Et à la fin, il fallait rester toute la nuit pour, au moment où c'était prêt, il fallait étouffer le feu pour que. Il fallait étouffer la base, là où il y avait les trous d'aération, comme la cheminée, hein, pour que ça s'étouffe.
Et après, voilà. C'est dangereux, non?
Non.
Avec la chaudière non plus, mais.
Non, moi, c'était moins dangereux avec certainement avec le. En fer qu'en bois, enfin, le tas de bois, je pense. Mm. Le bois, c'était. Je faisais ça dans les montagnes, je pense. Ça, j'ai jamais vu. La deuxième façon de faire un charbon de bois, c'était les charbonnières en fer. Moi, c'était plus facile, je pense.
Oui.
Et puis voilà.
Et les charbonnières en fer, comment ça fonctionnait?
Mais, en bas, il y avait des trous. Après, il y avait c'était des grands fours. Vous l'avez vu, ça, ouais.
Oui.
C'est des grands fours, ça. Et ils mettaient le bois dedans, d'une croisée, je pense. Ouais. Après, ils mettaient le feu. Ils mettaient le feu par en bas et. La cheminée, ça sortait, puis voilà, ça chauffait. Ça allait plus vite, peut-être aussi.
Qu'est-ce qu'on en faisait de ce charbon de bois? Il y avait quelqu'un qui l'achetait, qui venait le chercher?
Mon grand-père, lui, il le vendait.
Il le vendait?
Il faisait des sacs à jute. Mm-hmm. Et après, il le vendait, il le portait à la maison avec. Je me rappelle, il descendait les sacs où les gens venaient le chercher, mais souvent, il vendait au marché à la maison, il vendait le charbon. Les premières voitures, les Citroën, allez. La B2, on disait B2. Et il allait le vendre au marché où il le livrait, les gens téléphonaient pour l'acheter. Il était un peu connu. Et après, mon père allait le livrer.
Ok, alors le grand-père, il avait déjà une voiture pour le livrer.
Et grand-père, c'était les premières voitures. S'il avait la première voiture, c'était une gazo. C'était un véhicule qui marchait au bois. Et en 1900, ça c'était 1905 après la guerre. Après, voilà.
Après, il y a eu ça pour le véhicule.
Ça, il marchait à essence. Mais avant, il y avait le gazo. Ça, mon grand-père l'avait, ça. C'était un camion qui chauffait au bois, des fois on en voit sur les trucs de tracteurs, les rassemblements de tracteurs agricoles, les vieux tracteurs. Des fois il y en a ces véhicules. Après, les gens téléphonaient, il me faut 500 kilos ou une tonne de charbon, il allait le livrer.
Et c'était le temps où le Ventoux était très déboisé déjà.
Il était déboisé, oui. C'était replanté après. Mais le chêne, il n'est pas trop. C'était plutôt dans les montagnes ici. Il n'est pas dans le Ventoux, le chêne. C'était les montagnes ici, là, autour. Pas le Ventoux, il n'y a pas trop eu de chêne. Là. C'était que du pain. Il n'y avait rien d'abord. Après, ils ont planté du pain.
Et les pains, ils ne sont pas bons pour le charbon?
Ah non, il faut du chêne. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de végétation. Moi, j'ai pas connu. C'est plus vieux que ça. Non, ça a été planté, le Ventoux. Les années 50. Et je suis là, avant, dans les années 40, 40, 38, 40. Et tout le monde allait, tout le monde participait. Il payait les gens, l'ONF, il payait les gens pour aller planter des arbres, des pins.
Et vos grands-parents, ils ont fait ça?
J'ai un oncle qui l'a fait, ouais. Mon grand-père, non, parce qu'il bon, il avait pas le temps. Mon grand-père, il avait le commerce, il avait ça. Peut-être qu'il est allé, je sais pas. Il faisait le paysan, peut-être qu'il n'y a pas le temps, je sais pas. Les gens, ils se chauffaient au bois ou au charbon. Le charbon, c'était dans un poêle, pour un vie, là. C'était moins de... Ben, il en fallait moins.
Alors, votre famille était toujours ici?
Ouais. Ouais.
Depuis quand?
Je ne sais pas. Hein.
Toujours.
1700, je ne sais pas, moi. Ben, après, mon grand-père s'est marié avec un gars de Montbrun, une fille de Montbrun, ouais, voilà. Masso. Mon grand-père était de Saint-Léger, d'ici. Ouais. Après sa famille à lui avant.
Alors, ils étaient des paysans et ils font autre chose aussi.
Bah, ils faisaient pour vivre. Hein. Ils vivaient ceux qui fabriquaient, ceux qui. Du jardin, un peu de vigne, je sais pas.
Et le bois.
Après, ils faisaient du bois. Alors, ils faisaient les bergers, ils avaient des moutons, ils gardaient. Oui, cochons, des lapins.
Et.
Mais ça, c'était les années avant 1950. Ah, je pense. Après la guerre, ça a évolué les choses. 45-50. Je suis 50, il y avait l'automobile qui a commencé à. La première automobile. En 38, il y avait les premières automobiles, 30.
Qui avait le premier automobile ici?
Mon grand-père. Et le samedi, il menait les jeunes au bal avec le camion. Ils montaient tous dans la camionnette. Ils montaient dans la camionnette. Ils allaient au bal.
Où? Au bal.
Au village, un peu les villes, un peu plus, peut-être. Vaison ou Buis, il y avait un peu plus de monde. Voilà. Et oui. Ils montaient tous dans la benne. Et tous les mardis, ils faisaient la navette pour aller au marché. Avec le camion. Le gazo. Ils mettaient un jour. Il fallait 2 jours pour faire un retour.
2 jours?
Eh oui. Ben,
pour y aller?
Ben oui, parce
un
que.
Jour, pour retourner
oui, chez des amis ou. Voilà, ils menaient que de la marchandise. Les gens apportaient les escargots, le blé. Au Ambert, après, ils allaient le vendre à la maison. Les vendre à la maison.
Le charbon aussi?
S'il y avait des commandes, je pense, oui. Ah, ils prenaient le temps. Hein. Nous, il faut faire tout à 1 heure. Eux, ils faisaient ça en 2 jours.
Vous avez choisi faire quoi pour votre vie?
Moi?
Oui.
Continuer ce que mon grand-père avait commencé, le transporteur. Mon grand-père, il a commencé avec un camion et il allait faire des livraisons pour les gens du village. Il mettait la marchandise pour les porter à Vaison, pour les vendre au marché. Après, il y avait un petit train qui passait à Buis pour aller à Orange. Donc, des fois, il devait déballer dans le train pour acheminer la marchandise sur Orange.
Et vous avez suivi votre grand-père et père.
Après mon père, lui, ben, mon père, il a continué un peu le transport aussi.
Et vous, après lui?
Mais, parce qu'il faisait le transport, mais il avait le restaurant, l'épicerie, dans ses villages, il faisait tout. Épicier, restaurant, transporteur, marchand de gravier, marchand de sable. Les gens, ils faisaient tout dans les villages.
C'était une bonne vie?
Ben, sûrement, ouais. Ils étaient autant heureux que nous, hein, sûrement. Il y avait des filles et des garçons.
Et vivre à Brandt?
Bon, ils habitaient dans le village. Il y avait les moutons, chaque maison avait 2 ou 3 chèvres, des moutons. Ils allaient les garder, ils faisaient du lait, ils faisaient leur conserve. Il y avait un jardin plus loin. En bas, il y avait les terres. Ils vendaient un peu où ils peuvent. Ils faisaient des patates et ils vendaient. Ils vivaient de pas grand-chose. Ils mangeaient, ils se nourrissaient déjà. Ils se nourrissaient eux. Mais... Ouais. Après les années 50, ça a quand même évolué après.
Vous n'avez jamais eu envie de vivre dans une grande ville, Marseille?
Non.
Non? Quoi?
Pourquoi? Pourquoi je n'y suis pas allé? Parce que. Mais mon père avait un commerce ici, bah, j'ai travaillé avec lui. Il avait un camion, après moi, mon père il a agrandi un peu l'entreprise. Il allait un peu plus loin, il allait jusqu'à Marseille, à Montélimar, après j'ai continué un peu. Un peu plus loin. Moi, je vivais sur Sète, Nice, voilà, tout ça. Et après, mon fils, il est encore, après, voilà, c'est encore agrandi. C'est difficile aussi. Hein. Il y a une époque difficile. Camion, c'est cher. Beaucoup de frais. Le personnel, quand tu es seul. Mais tu ne peux pas tout faire non plus tout seul. Tu es obligé de...
Vous êtes heureux ici?
Oui, je ne vais pas habiter à vivre, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, il ne faut pas tout barricader le soir, s'enfermer, faire des clôtures. Pour que le chien de l'autre passe.
C'est bien ici.
Ah ben oui, tant que...
Et cette vue que vous avez là,
oh, bah, la vue,
c'est hein. Magnifique.
La vue, voilà. Oh, je fais plus attention.
Non ?
On nous dit que c'est joli, mais ouais, c'est bien. On est content que les gens soient. Ils nous disent que c'est joli.
Et qui avait l'auberge, le restaurant ?
Eh bien, c'est mon... Mes parents, c'est ma grand-mère qui l'a commencé en 1900. Ça a été construit en 1908, là. En 1908, ça a été construit.
Cette auberge-là, ouais. Elle est là-bas.
Ouais. Hein. Oui. Donc, mon père était pas né. Donc, il est né en 34, lui. En 24. C'est mon grand, je pense que c'est mon grand-père qui a commencé à construire ça.
J'imagine que c'était le centre de la société.
Ben,
hein.
Ben, c'était, oui. Après, il a fait l'officier, il avait deux chambres pour dormir les gens. C'était un refuge un peu, comme les trucs de Napoléon. Hein. Le refuge de Napoléon, c'était un peu... Là. Après ça s'est agrandi. Mon père après, mon grand-père il faisait l'épicier, ma grand-mère l'épicier, le restaurant, le marchand de sable, le tabac, le, tout. Ben les gens ils venaient acheter le gaz, ils venaient
tous,
un paquet de cigarettes.
Ils venaient tous ici. Hein.
Après les années 60 quand il y a eu, après c'était plus compliqué parce qu'il s'est mis à faire des, il y a eu les supérettes. Qui se sont développés, donc...
Oui,
il y a eu l'automobile qui était arrivée, c'est pérenne, après les gens ils sont allés à ville acheter les choses, c'était beaucoup plus de choix, plus de... moins cher.
Oui, mais l'épicerie...
Ça, c'est les années 60, ça, c'est les années 60, ça. Avant, il y avait l'épicier qui passait aussi, il y avait le boucher qui passait, avec un fourgon, le marchand de chaussures, il passait. Ça, c'est les années 60, hein, 55, 60... Le premier véhicule qu'il y a eu, dans les 60, les années 60. Il y avait le boucher passé avec sa voiture, l'épicier, marchand de chaussures passé aussi, avec ses chaussures dans la voiture. Hein. Et oui, c'était le maire du but, là, Jousselme. L'ancien maire du but, là, Jousselme. Il vendait des chaussures. Monsieur Goulet, là, ça. Ferrassière.
Ouais.
Le père de Joël. Ouais. Mais il faisait le paysan et il vendait des chaussures. Il passait avec sa voiture, il vendait des chaussures. Ben oui.
Je me souviens.
Où il allait les acheter, je ne sais pas. Le poissonnier, tous les mercredis, s'il passait, le poissonnier. Les années 60 à 75, oui, pendant 18 ans. Oui, c'est pendant longtemps, le poissonnier a passé. Hein.
Oui, quand on s'est marié, il passait.
Oui, tous les mercredis.
En 78,
le boucher, c'était le vendredi, du buis.
Monsieur Lascombe.
Lascombe. Après, c'était le poissonnier. Goulin, il passait que des chaussures, des vêtements, lui, pas ce qu'il faisait.
Oui, mais c'est plus vieux, moi, je n'ai pas connu. C'est plus vieux, ça.
Il y avait Garcin,
non ? Garcin, alors Garcin, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait quelque chose, des trucs comme ça aussi.
Des vêtements de travail et tout ça.
Ouais, je pense qu'il y avait Garcin aussi, au moins. Ouais.
C'était une époque.
Hein. Et après, il y a eu l'automobile. Donc, en ville, c'était des magasins. Un peu plus gros, des épiceries, des gros, plus gros.
Oui, mais.
Donc, après, les gens, ben, ils sont allés. C'est la voiture, c'était plus commode.
Ah ben, quand il y a eu des voitures, c'est vrai que les gens se déplaçaient plus facilement. Donc, après, les marchands...
Il y avait le petit train du buis. Il venait jusqu'au buis, donc on faisait orage le buis. Mmh. Ben, c'était pour que... il y avait des silos à blé partout. Et les paysans, ils menaient le blé au petit train. Pour que le train allait sur orage. Après, le blé partait dans des usines où il faisait la farine. Le pain, voilà. Ouais. Porter les sacs de blé au train, à buis, à coste... Et après, le train allait au branche, après ça partait encore dans d'autres trains, je sais pas.
Puis, tout le monde ramassait.
Oh, mais ça doit être partout, pareil en France, il n'y a pas qu'ici. Hein.
Mais à cette époque, on avait tout dans les villages.
Oui, mais c'était.
Ah, bon, on avait pratiquement nos tarsis. Hein.
Ouais, ben oui.
Nous, l'épicerie.
Ah, oui, ben oui.
L'épicerie qu'a créée ses parents à l'auberge.
Oui, même
de la vallée du Tourou.
Elle a été. Elle est restée jusqu'en 1994, parce que
sa maman
vendait
des fonds de commerce. Ils avaient des bêtes.
Elle vendait toujours un peu à l'épicerie. Les gens, les maisons secondaires, les vacanciers, ils venaient tous acheter à l'épicerie. Hein. Moi, j'ai...
Bon, après les années 80, après, il y a eu les dates de, dates de préhension, les dates, dates limites.
Ça fait rien, ça fait rien. Ta maman, elle a toujours tenu l'épicerie jusqu'au bout.
Vous êtes compliqué. En 70, ils ont mis la TVA. Il y avait...
C'était pas compliqué pour elle. Hein.
Ah si, la TVA, si, il y avait un livre. C'était...
Oui, mais je veux dire, elle a pu. Les gens étaient ravis de venir pouvoir acheter un légume, pouvoir acheter une tranche de jambon.
La TVA, ça a été.
Elle a toujours. C'était sympa, quoi. Après, ça a disparu parce que. Voilà, quoi, les gens.
Ça a fait une barrière, ça, la TVA, pour la France.
Oui, mais bon, c'était pas. C'était pas très gênant.
C'était une taxe, une grosse
taxe. Oui, non, bien sûr, mais bon, ça n'a pas empêché que ta maman continue l'épicerie.
Oui, mais oui, mais il y a eu un changement là aussi.
Elle était très organisée, sa maman. Parce que quand, je veux dire, quand elle a voyé que son. Elle achetait des yaourts, des flans, quand ça arrivait à date limite. Bah, elle le passait à l'auberge, hein, au restaurant. Au lieu de proposer des fruits, bah, elle proposait des flans. Et elle a toujours fini, fait filer ses.
Oui.
Elle était très organisée.
Mais à ses limites, t'avais que quelques produits. Parce que maintenant, c'est surtout de tous. Il y a un produit. Il y a une date.
C'était une petite épicerie. C'était pas une supérette, hein, attention.
Ah ouais, quand après, de plus en plus, ils mettaient des dates limites, les gens, ils voulaient plus acheter. Après, épicerie, c'est plus rien.
Oui, mais bon.
Après, c'était trop
cher. C'est dommage.
C'est dommage. Et pour
c'est
comment
dommage.
Est-ce que c'est comment est-ce que c'est venu que maintenant dans les villages il y a même pas un boulanger?
Voilà. Ben parce que ceux qui ont repris l'activité n'ont pas voulu continuer l'activité de l'épicerie. Ça leur faisait peut-être trop de travail ou oui trop de travail parce
après,
qu'il
faut
fallait
du personnel,
acheter,
hein.
Il fallait
oui,
voilà.
Faut... Oui, oui,
pour
faut...
gagner pas grand chose, voilà.
Il faut du personnel aussi après plus si avec plus de monde.
Mais bon, gagner pas grand chose, mais ça plus ça plus ça plus ça,
ouais.
Ça fait. Et aujourd'hui qu'il n'y a plus rien, ben rien que l'auberge, ben ça vit, ça vivrait, mais s'il y avait autre chose à côté, ça vivrait encore mieux.
Après, c'est monté des super dans les villes, c'est monté des supermarchés.
Et les gens partaient là-bas.
Après. C'était moins cher, il y avait l'automobile. Hein.
Ça leur faisait une sortie.
Ça leur faisait une sortie aussi.
Il y avait l'automobile aussi. Est arrivé aussi. Pour te déplacer.
C'est sûr que l'automobile plus les supermarchés dans les villes, eh ben, ça a été la fin des petites épiceries dans les petits villages.
Même en ville. Hein.
Ça a été
à Avignon, il y avait des épiceries dans toutes les rues. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. Attends, t'as invité sous, dans une rue, là, à Rosaire.
Bon, c'est à Avignon, c'est pas ici.
Il y avait deux ou trois petites épiceries, mais petit, elles ont fermé pour aller.
C'est vrai que ça fait les véhicules plus les supermarchés, ben, ça fait partir les gens. Mais c'est dommage.
C'est pas décidé, c'est que les jeunes, après, tu pouvais pas reprendre les terres. Enfin, surtout dans la vallée, ici, il n'y a pas de terres pour pouvoir vivre. Un jeune, une famille, il n'y a pas trop de sol, les terres sont plus grandes, ils arrivent à vivre, la famille arrive à vivre des terres. Mais là,
trop petit.
Mais le moissonnage, le curé, il est trop petit, il n'arrive pas à se tourner, le moissonnage, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas te plus du blé, hein.
Et, oui. Bon.
Et puis après, la vigne ici, elle ne pousse pas, il fait froid. Alors, il y avait des raisins de table, c'était juste, chacun avait son carré de vigne pour faire son vin. Le voisin là-dessus,
et
mon
grand-père. Et son marc de raisin.
Et puis dans le village, il y avait un pressoir, c'était un pressoir à main. Et chacun, on se le prêtait, chacun son tour, pour faire le vin, pour faire la piquette.
C'était une autre vie. Hein.
C'est nous qu'on faisait le vin, alors. Le vin, c'est pas facile à conserver. Alors, au bout de 4 ou 5 mois, c'était de la piquette.
Il était aigre.
C'est presque vinaigre.
Un vinaigre. Ben, tu buvais ton vin pendant celui qui s'en occupait, ben, il faisait son vin, sa vigne, il faisait son vin, et puis toute l'année, il avait du vin, pour lui.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai goûté le vin ici, j'ai vu faire le vin. Gustave Guilligny, il faisait encore son vin,
ouais.
Et il me faisait goûter, quand il le sortait, il appelait
ouais,
ça le vin
doux.
Ouais. Le vin doux. Et je me rappelle en avoir fait boire à ma fille aussi, ouais, moi bon. En boire, mais une fois le vin doux passé, c'était... C'était pas bon.
Le vin doux, c'était bon.
Il fallait s'en occuper du vin, il fallait des bons tonneaux, il fallait les laver.
Ah oui.
C'était difficile. Il fallait toujours qu'il soit plein. Alors, il faut, tous les 2 mois, il faut, tous les 15 jours, il fallait, avec notre tonneau, tu remplissais celui-là pour manquer d'air. C'est un trafic. Et puis après, des fois, si tu laissais un peu. Il venait un peu. Un grand.
Ça faisait du vinaigre.
Après, bon, les 6 premiers mois, ça allait, mais les derniers mois, après, c'est plus la piquette.
Oui.
Merci, Patrick.
Pas